Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
À l'automne dernier, le Palais de Tokyo accueillit une exposition appelée On Air de l'artiste Thomas Saraceno. On pouvait y voir d'immenses toiles d'araignées, des jeux d'ombre et de lumière, des cordes tendues, qui produisent des variations sonores, le tout pour une sorte de concert onirique. Thomas Saraceno, qui était rien moins que l'une des vedettes de la dernière foire internationale d'art contemporain, appelée couramment FIAC, grand rendez-vous annuel de l'art contemporain à Paris. De quoi se décourager et ne pas s'intéresser à cet art qui n'en est plus vraiment un, se disent la plupart d'entre nous, à tort ou à raison. L'art contemporain a-t-il une âme ? C'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, en ce vendredi, avec pour nous aider dans cette grande forêt, peut-être vierge pour beaucoup, Françoise Baniris-Merlet. Vous êtes docteur en histoire de l'art, professeur honoraire de l'École des Beaux-Arts à Toulouse et professeur à l'Institut catholique de Toulouse. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez donc accepté de nous aider à rentrer un petit peu dans l'art contemporain. On a déjà fait une émission ou deux, enfin en tout cas depuis que je suis arrivé, j'imagine que Sabine Cass en faisait souvent, à propos de l'art contemporain. Cette émission qui a été motivée par un cycle de cours que vous avez donné récemment à l'IAMS, l'Institut des Arts et Musiques Sacrées à l'Institut catholique de Toulouse, qui avait pour titre « Ça tombe bien, l'art contemporain a-t-il une âme ?» Ma première question, avant qu'on rentre un peu dans le vif du sujet, est-ce que vous êtes, attristé, agacé quel est un peu votre sentiment à l'égard de l'a priori que beaucoup d'entre nous ont peut-être à l'égard de l'art contemporain, Françoise Baniris-Merlet?
Tout d'abord, qu'est-ce que l'art contemporain? Si on pense que l'art contemporain est un art qui commence à Picasso, je pense qu'il y a là une série de critères qui ne correspondent pas tout à fait à ce qu'on peut appeler contemporain. Dans le contemporain, c'est-à-dire en même temps que nous, des gens que nous pourrions rencontrer, dont nous pourrions visiter les ateliers, il faut, je n'en veux absolument pas aux personnes qui doutent de cet art, parce qu'il est très difficile d'y voir clair. Il est très difficile de choisir des artistes qui puissent toucher l'un ou l'autre de façon différente. Donc il n'y a pas de critère universel.
Donc vous n'avez pas d'amertume particulière. On peut imaginer que si vous aimez l'art contemporain, vous devez quand même être un peu désolé peut-être de l'a priori qu'on peut avoir à l'égard de cet art.
Je suis désolée du manque de curiosité. Beaucoup d'entre nous manient les ordinateurs, les portables, beaucoup d'entre nous utilisent des médias très contemporains, vont au cinéma, et par contre, l'art contemporain leur fait un peu peur. Donc, la curiosité qui est manifestée dans certains domaines ne l'est pas dans d'autres. C'est ce que je regrette.
Alors, je vais vous poser les questions qui peut-être vous paraîtront un peu caricaturales. Dans cette première partie, on va essayer donc de comprendre ensemble ce que l'on met derrière le mot art contemporain. Et puis, peut-être faut-il aussi essayer de voir quels sont pour vous les critères qui feraient qu'il aurait plus ou moins une âme. Si on commence par la définition stricto sensu de l'art contemporain, en préparant un peu cette émission, j'ai cru comprendre qu'on datait la naissance de l'art contemporain. Alors, semble-t-il, les historiens de l'art ne sont pas tout à fait d'accord, plutôt des années 60. Est-ce le bon moment? On parle par exemple du pop art. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ce sujet? Et pourquoi dans les années 60, au moment de ce grand bouleversement culturel? Deux grands bouleversements culturels.
Oui, je pense qu'effectivement, le pop art a conclu à la fin d'un type d'art qui était un art appliqué, qui suivait la reproduction d'éléments visuels qui étaient proches de nous et qui les a transformés, car Andy Warhol, par exemple, utilisait beaucoup lui-même le système des médias, des photos, des sérigraphies, bon, des applications techniques reprises en peinture. Donc je pense qu'il y a là l'avènement, à cause ou grâce à Andy Warhol, l'avènement d'une forme d'art nouvelle qui n'est plus la relation directe entre l'artiste et l'objet, le personnage, le paysage représenté. Voilà. Mais depuis, les années 60 sont loin.
Est-ce que vous pouvez prendre un exemple peut-être d'œuvre d'Andy Warhol que les gens ont en tête, ce qui est pour...
Il y a Marilyn, par exemple. Marilyn, le portrait de Marilyn, qu'il a voulu traité en peinture à partir d'une édition de journal noir et blanc, composé d'un très grand nombre de pixels de l'époque, édition noir et blanc qui était tirée d'un journal de fin fond des États-Unis, c'est-à-dire avec une résolution très faible. Et à partir de cela, il a voulu en faire une peinture pour montrer combien Marilyn était rentrée dans le cœur, l'âme, l'imaginaire de tous les gens du fin fond des provinces américaines.
Alors si on doit essayer donc de sourcer la naissance de l'art contemporain, j'ai cru comprendre aussi qu'il fallait parler un petit peu du dadaïsme et des expérimentations de Marcel Duchamp. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'un et de l'autre ?
Alors, Marcel Duchamp a changé lui aussi beaucoup le rapport à l'art. Il était, mais pour moi c'est très vieux tout ça, nous sommes devant les grands-parents de l'art contemporain.
C'est la préhistoire de l'art contemporain.
C'est la préhistoire de l'art contemporain. Mais il a beaucoup contribué à nous donner une réflexion sur l'art, une réflexion qui est d'abord intellectuelle et à développer les définitions de l'art contemporain plutôt que la simple contemplation des œuvres. Et il a aussi beaucoup critiqué avec l'urinoir, il a beaucoup critiqué la vente et les tarifs appliqués à ces œuvres qui évidemment étaient au départ des œuvres commerciales vendues dans n'importe quel magasin, grand magasin. Donc c'est une remise en question profonde de la valeur intrinsèque de l'art.
Et si on doit parler du dadaïsme parmi ces dinosaures pour vous de l'art contemporain
Je préfère ne pas en parler parce que pour moi ce n'est plus l'art contemporain.
Alors est-ce qu'on peut dire que le propre de l'art contemporain, Françoise Bagnéris-Merlet, c'est de ne pas d'abord viser une représentation figurative ? Est-ce que c'est comme ça en tout cas que souvent on l'imagine ? Est-ce un bon a priori ou pas ?
Ce n'est pas, on peut viser des représentations figuratives. Je pense à un artiste, par exemple, qui s'appelle Gerhard Richter, qui est un des plus cotés du monde actuellement, qui part de photos. Voilà. Il part souvent de photographies de paysages ou de personnages. Mais à partir de cela, il a une sorte de philosophie qui serait trop longue à développer dans le cadre de ces 15 minutes, une philosophie par rapport à la réalité. Et toujours pareil, quel est le rapport du médium par rapport à la réalité des médias, la photo d'abord souvent ratée volontairement, la peinture, etc. Donc il y a toute une série, je dirais, d'écrans qui nous sépare qui sépare la réalité vue par chacun de la façon du rendu de l'artiste.
Alors quelles seraient les autres grandes caractéristiques dans lesquelles qu'on pourrait donner à ce qu'on appelle l'art contemporain ? Qu'est-ce qu'il caractérise ?
Il y a toutes sortes de caractéristiques, c'est-à-dire on peut tout à fait juger que par exemple Soulages, qui vient d'avoir 100 ans, est tout à fait contemporain. C'est un des artistes les plus connus, les plus cotés du monde, et c'est au moins d'Europe, et c'est un artiste totalement abstrait qui utilise lui complètement le médium de la touche picturale et de la façon de poser la peinture épaisse avec des brosses, le contraste des ombres et des lumières. Il n'y a pas de message dans la peinture de Soulages, sinon la matière, le rendu de la matière. Il y a des artistes qui, eux, travaillent au contraire beaucoup sur le sujet, comme Richter dont nous venons de parler. Il y a Basquiat, qui est le plus coté des artistes américains, mais le plus coté dans le monde, qui lui a beaucoup travaillé sur à la fois le rapport entre sa propre histoire, qui est l'histoire d'un Portoricain descendant d'esclaves noirs, etc., dont la culture est immense parce qu'il connaît bien le monde des musées, qui a toujours rêvé d'aller en Europe, en Afrique surtout, et quel est ce rapport entre la vision de l'esclavage qu'il a reçue de son enfance, puisqu'il est descendant d'anciens esclaves, et puis, au contraire, le monde d'où il est issu, qui est le monde de l'art, le monde de l'argent, puisqu'il était proche d'Andy Warhol aussi. Donc, tout cela, on ne peut pas dire que ce soit une définition bien, bien simple.
C'est-à-dire que là, vous prenez l'exemple de deux artistes où, dans un cas, en fait, il n'y a pas, entre guillemets, de démarche intellectuelle à vous entendre, et dans l'autre cas, il y en a une.
Oui.
Mais du coup, vous nous perdez, et c'est peut-être ce qui fait un petit peu que les gens ont du mal avec l'art contemporain, c'est qu'on aimait, on aime, en fait, trouver des... Je ne sais pas, quand on parle, par exemple, de la Renaissance, bon, bah, on a quelques grands artistes en tête, et on comprend quel est globalement le sens de la démarche. Là, à vous entendre, en fait, il n'y a pas de grande typologie qui aide à définir ce qu'est l'art contemporain.
Il y a dans l'art du passé, il y a autant de définitions complexes. C'est-à-dire qu'il y a autant de présupposés dans certaines œuvres d'art ancien. Je pense à des œuvres de Bruegel ou de Bosch. On nous a jamais dit que, par exemple, pour voir, pour comprendre une œuvre de Bosch, il faut se baser sur des sermons qui étaient délibérément diffusés au XIVe, au XVe siècle, bien avant. Donc, je crois qu'on en reste... On reste plutôt conforté, on reste rassuré devant des œuvres anciennes parce que nous savons les lire visuellement. Mais on oublie souvent d'approfondir les présupposés. C'est la même démarche dans l'art contemporain. Quand nous ne voyons pas d'image qui nous rassure, nous sommes perturbés, mais la démarche intellectuelle est aussi approfondie. Bien sûr, il y a beaucoup de tableaux décoratifs dans l'art ancien, des bouquets de fleurs flamands, des choses comme ça, des natures mortes superbes qui étaient là pour le plaisir. Mais ça existe aussi dans l'art contemporain.
Mais en même temps, si vous reprenez l'exemple de François Soulages, vous dites vous-même que derrière, il n'y a pas forcément une démarche intellectuelle. Donc, il n'y a pas besoin d'attendu, en fait, pour arriver à lire cette œuvre, normalement.
Il faut accepter une démarche qui n'est peut-être pas intellectuelle, mais qui est une démarche physique. C'est-à-dire, il faut accepter de voir l'œuvre pour ce qu'elle est, uniquement pour ce qu'elle est, sans le mythe de l'artiste, bien que pour nous, le mythe de Soulages existe. Mais Soulages veut disparaître derrière une marche devant un rapport entre la vibration de la lumière sur la couleur, le noir qui peut devenir blanc, en fonction de son éclairage et de notre marche. Donc ce rapport-là devient tout à fait différent.
Alors, Françoise Banéris-Merlet, avant qu'on fasse une première pause, s'il faut aller jusqu'au bout de l'explicitation du thème donc de votre cycle de conférences qui sert de thème d'émission aujourd'hui, l'art contemporain a-t-il une âme ? Qu'est-ce que vous entendez du coup derrière par âme ? Là, en l'occurrence, peut-on y trouver une définition ? Et qu'est-ce que vous en donnez comme définition ?
Alors, l'âme, c'est d'abord un principe de vie. C'est une définition que l'on peut trouver dans le Littré, tout simplement. C'est le souffle, le vent qui nous anime. Alors, soit ce vent, nous l'avons nous, soit j'ai estimé qu'il pouvait être reçu également à partir d'une œuvre d'art qui nous touche et qui nous met en marche, qui nous anime. Certaines œuvres d'art restent gravées dans notre mémoire. Eh bien, ce sont ces œuvres qui... frappe les uns ou les autres de façon différente et qui, à mon avis, peuvent nous mettre en marche de façon différente également. Voilà pourquoi le panel proposé dans ces six émissions, dans ces six conférences que j'ai données était très différent.
Vous me disiez en préparant l'émission que pour vous, il y avait quand même quelques critères qui pouvaient, on va dire, arriver à définir ce qui serait un art contemporain qui ne serait pas une imposture. Parce que parfois, est-ce qu'il n'y a pas aussi des impostures en fait dans ce qu'on appelle l'art contemporain ? Alors, quels seraient ces quelques critères qui feraient que on pourrait en éliminer certains ?
Que d'abord, lorsqu'on voit une œuvre d'art contemporain et qu'on est touché, l'artiste a quelque chose à dire. C'est-à-dire que c'est là que Marcel Duchamp, c'est là que le mouvement Dada a rajouté peut-être ce poids à l'époque contemporaine. Il ne faut pas que simplement ce soit une image pour l'image. Voilà. Et quand l'image rallie l'universel, quand la démarche intellectuelle se relie à l'universel, ou même au politique, au social, à ce moment-là, nous pouvons tout à fait comprendre que c'est une œuvre qui peut traverser le temps.
Se relier à l'universel, ça veut dire quoi ?
Par exemple, je pense à... ce serait peut-être trop long de vous l'expliquer. Se relier à l'âme d'un pays, à l'inquiétude d'un pays, à l'inquiétude, à tout ce qui fait le principe, la culture profonde d'un pays que l'on retrouve également à travers sa musique, sa danse, sa littérature. Voilà, des éléments qui sont permanents.
Alors si vous deviez prendre l'exemple pour vous d'un ou deux imposteurs contemporains à propos de l'art contemporain, on cite souvent Jeff Koons, qui n'est pas très aimé, qu'est-ce que vous donneriez comme nom ?
Moi, je prendrais les artistes les plus cotés et dont la cote s'est effondrée très récemment. Lorsque vous avez une somme colossale et que vous n'avez pas le temps de vous occuper de vous en occuper pour pouvoir la gérer, vous faites confiance à des courtiers, à des marchands d'art qui, eux, décident que à ce moment-là, au moment où vous devez placer de l'argent, cette somme sera bien placée chez telle ou telle œuvre. Voilà. À partir du moment où, quelques années après, la cote de cet artiste s'est effondrée, on peut penser que c'est un imposteur. Si sa cote monte ou est égale, à ce moment-là, c'est qu'il a toujours quelque chose à nous dire.
Voilà, donc vous ne préférez pas ne pas donner de nom par délicatesse à l'égard des artistes. On aura compris, on va faire une première pause et puis on va vous retrouver. Vous allez donc nous aider à faire une promenade dans l'art contemporain, qui pour vous, pour le coup, auprès de personnes qui sont vraiment des artistes, avec différentes portes d'entrée, vision de l'homme, vision politique, écologie, abstraction, particulier ou universelle, ou différentes portes d'entrée qui sont autant d'échos justement dans notre âme et qui font que pour vous ces démarches sont réellement artistiques.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
L'art contemporain a-t-il une âme ? C'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église en ce vendredi matin, avec autour du plateau Françoise Beniris Merlet, docteur en histoire de l'art, professeur honoraire de l'école des Beaux-Arts de Toulouse et professeur à l'Institut catholique de Toulouse, qui très sympathiquement nous aide à rentrer dans l'art contemporain pour nous qui n'avons probablement pas tous une très grande culture en la matière. Dans cette deuxième partie, vous m'avez suggéré donc pour illustration que l'âme contemporain peut avoir une âme, de prendre un certain nombre d'artistes avec à chaque fois des clés d'entrée. La première clé d'entrée que vous m'avez suggérée, c'est donc des artistes qui ont une certaine vision de l'homme. Vous m'aviez suggéré Francis Bacon ou Lucian Freud. Alors lequel des deux à votre faveur? Vous préférez choisir lequel?
Je vais dire un mot sur les deux. Ce qui les relie, c'est qu'ils sont morts. Bacon est mort avant Freud, avant Lucian Freud. Et tous les deux restent des références et resteront toujours des références. Donc quand il s'agit de l'humain, il s'agit effectivement d'une patte universelle. Nous en sommes tous pétris. Et lorsque des jeunes artistes ou des jeunes les amateurs d'art le choisissent toujours, c'est qu'ils répondent toujours, ils nous répondent toujours présents dans nos mémoires. Ils restent universels. Alors celui que je choisirais plutôt, c'est peut-être Lucian Freud.
Alors, est-ce que vous pouvez partir de la description d'une œuvre qui vous reviendrait en tête?
Oui.
C'est un homme qui a fait beaucoup de portraits.
Oui. C'est un homme qui a fait beaucoup de portraits. Il a commencé par des portraits qui étaient des portraits d'ailleurs de chefs d'entreprise, puisque lui-même était très connu. Et l'Angleterre a une grande tradition de portraits. Il y a un musée spécial à Londres qui est considéré comme le plus célèbre du monde pour la tradition des portraits, ce que nous n'avons pas chez nous. National Portrait Gallery. Et certains chefs d'entreprise ont voulu se faire représenter par Lucian Freud, et pourtant, nous pourrions considérer qu'ils ne sont pas gâtés par le pinceau du peintre. Et pour eux, c'était quand même une façon d'arriver à l'apogée de leur gloire économique, industrielle et artistique.
Alors prenez un exemple, à quoi ressemblaient ces portraits, si vous en revient un en tête, pour essayer de décrire ces portraits que j'ai vu qu'on disait hyper réalistes, mais en fait qu'ils le sont, mais d'une manière particulière.
C'est ça. Il va insister, comme l'artiste est très psychologue, il va insister sur, par exemple, un chef d'entreprise qui est assis, dont j'ai oublié le nom, excusez-moi, qui est installé sur un fauteuil, les yeux un peu rêveurs, puisqu'il pose pendant longtemps. Donc assis, à mi-corps, et les mains posées sur les accoudoirs de son fauteuil, et il a une tête, je dirais, de gladiateur romain, malgré son costume, sa cravate, sa chemise qui est bien serrée, son visage est légèrement rouge, pourpre presque, et il a les yeux un petit peu dans le vague, avec un menton très assuré, très carré, très proéminent. Et derrière lui, debout, accoudé ou à côté de son fauteuil, se trouve son fils qui est son héritier, qui est fade, qui est doux, calme, presque évanescent. Et on sent que, malgré la commande qui en a été faite, malgré le désir du père que le fils soit présent sur le tableau en tant qu'héritier de l'affaire, on sent que le fils n'est déjà pas taillé pour reprendre l'œuvre bâtie par le père. Vous savez, il y a ces vieux proverbes qui disent que les générations se suivent et ne se ressemblent pas, et on le sent. La première construit, la seconde consolide, la troisième dilapide. On ne sait pas ce qui va se passer, mais on le sent.
Qu'est-ce qui vous touche du coup dans cet exemple, dans l'exemple de cet artiste Lucian Freud? C'est que là, c'est de l'art contemporain, c'est du portrait, mais c'est une manière de faire du portrait qui est
très profondément psychologique, où à la fois, quand on regarde de près l'œuvre, quand on a la chance de la voir de près réellement, les coups de pinceau sont des coups de pinceau qui pourraient en faire une œuvre abstraite de près. Ce n'est pas un travail photographique de près, je répète, ce sont des œuvres de grande taille. Mais de loin, on sent des tempéraments qui sont radicalement différents et ceci est universel.
Deuxième porte d'entrée que vous m'aviez suggéré, c'est donc des artistes qui ont une vision politique, qui disent donc quelque chose, qui ont un discours. Vous m'avez suggéré un certain Banksy,
Oui.
C'est ça, je ne sais pas si je prononce correctement. J'ai vu entre autres un mur qu'il a fait, voilà, où on voit une colombe. C'est un mur qui... Enfin, sur ce lieu, pardon, je vais y arriver, 40 Palestiniens ont été tués. Là, en l'occurrence, il y a un propos. Est-ce que c'est celui-là qui vous vient à l'esprit ou est-ce que vous en avez d'autres à nous suggérer ?
Je retiendrai plutôt de Bansky un fait divers récent, lors d'une vente aux enchères assez récente. Il a laissé cette œuvre se présenter chez Sotheby's ou Christie's, je ne sais plus. Et au moment où l'œuvre avait été adjugée, avec des enchères extraordinaires, l'œuvre s'est autodétruite parce qu'il avait caché lui-même, dans le cadre, un système de destruction. L'œuvre est tombée en lamelles successives. C'était un papier, donc il voulait montrer lui-même qu'il critiquait la valeur donnée à des œuvres d'art contemporain. Et il ne se mettait pas du tout en valeur, puisqu'on n'a jamais vu son portrait à lui. Il ne paraît pas dans les médias, il se cache. Donc il voulait montrer la folie des enchères, qui sont des placements. Voilà.
Là, c'est plutôt un discours économique.
C'est un discours
économique.
C'est
pas un discours politique. Est-ce que vous auriez l'exemple d'une autre œuvre qui est un discours politique ?
Alors, j'avais pensé à une œuvre de Anselm Kiefer, qui, là, me semble très profondément politique. Kiefer est intervenu, a commencé son travail, qui était un travail très réaliste, sa peinture très réaliste, de très très grande taille, à l'allemande, il est allemand, juste au moment où l'art abstrait était encore très à la mode. Et au début, il ne gagnait aucun argent, il était un artiste qui n'était pas reconnu. Mais il est allé reprendre, dans les mythes les plus profonds de l'Allemagne, les mythes que l'on retrouve également chez Wagner, ces plaines brumeuses, profondément labourées, hantées par des sortes de génies propres à la mythologie allemande. Et après, il a pu montrer combien cette âme allemande se retrouve profondément dans la vision actuelle de l'art contemporain. Il y a associé aussi parfois les rails qui menaient à des camps de déportation. Il y a associé de la paille, des matières très visuelles, très tactiles. Et il nous donne des champs, je dirais, des champs d'exploration, des champs d'exploitation qui pourraient correspondre à un paysage embrumé d'un morceau de l'Allemagne actuelle. Et à la fois, tout cet arrière-plan, c'est tout cet arrière-plan historique et mythique qui ne peut laisser insensible, quand on l'a connu un petit peu, aucun Allemand.
Si on avance, l'autre porte d'entrée d'une certaine manière, enfin, que vous suggérez, donc c'est une porte d'entrée écologique. Voilà, certains artistes disent quelque chose ou viennent en tout cas nous interroger sur le rapport que l'on a à la nature, la manière de la regarder, de se comporter avec elle, de l'accompagner, de la domestiquer ou de la dominer. Vous vouliez citer un premier artiste, Giuseppe Pennone. Moi, j'avais trouvé comme œuvre donc une main qui a été posée sur un arbre et puis après l'arbre a poussé et donc on voit une espèce d'excroissance de cet arbre qui a poussé autour de sa main, qui a dû être mise il y a maintenant quelques dizaines d'années, pour signifier l'empreinte violente en fait, de l'homme sur la nature. Est-ce que vous auriez une autre œuvre à citer pour cet artiste et nous dire quelques mots sur cet artiste ?
Oui, vous faites allusion à une œuvre qui représentait une main. Effectivement, c'est une main en bronze que Pennone avait lui-même fait fondre et qui, effectivement, a empêché par la suite que l'arbre puisse pousser facilement. Elle a emprisonné le tronc de ce jeune arbre et elle a formé effectivement un nœud à ce moment-là, à sa libre expansion. Et il a quand même été toujours fidèle. Là aussi, c'est un artiste important parce qu'il est resté toujours fidèle à certaines intuitions. En 2003, lors de la grande la grande tempête qui a fait tomber de nombreux arbres dans le parc de Versailles, il a racheté certains arbres qui avaient été déracinés et que l'on ne pouvait absolument pas utiliser. Et il les a dépecés en fonction de la pousse des arbres. Chaque fois qu'un arbre pousse, il détermine une sorte de cercle comment, des cercles périphériques qui traduisent justement, ou tous les 10 ans, ça pousse. Et donc, il a essayé de retrouver les différentes étapes de la pousse de cet arbre, ces arbres qui dataient du 18e siècle. Et ainsi, il a mis à nu la vie intérieure de cet arbre. C'est le même principe, c'est toujours suivre le trajet intérieur vital de l'arbre. On parle toujours du souffle. Là, le souffle humain peut aussi se raccorder, être mis en parallèle avec le souffle ou la vie intérieure de la végétation.
Alors, puisque le titre de l'émission, c'est « L'art contemporain a-t-il une âme ?», je propose que là, du coup, on s'arrête un petit peu. Qu'est-ce qui fait pour vous que cet artiste a particulièrement une âme et que c'est un art qui a une âme, quand vous décrivez par exemple ce travail fait autour des arbres du château de Versailles?
Ah, d'abord, l'âme au sens concret du terme, c'est effectivement le centre de quelque chose. On dit bien l'âme d'un bois, l'âme d'un instrument de musique, voilà. Donc il s'agit du cœur, du cercle. Et dans ce cas-là, Pennone recherche toujours à savoir, nous faire découvrir ce qui fait passer la sève, ce qui fait passer la vie intérieure d'un arbre.
Autre porte d'entrée, à moins que vous vouliez citer un autre artiste sur la question de l'écologie, ou enfin sur cette porte d'entrée, est-ce que vous vouliez en citer un autre, ou est-ce qu'on passe par exemple à l'abstraction? Vous m'aviez suggéré de parler de Richard Serra. J'ai vu que Richard Serra, entre autres, faisait des immenses sculptures artisanalo-industriels en acier, de taille gigantesque, qui sont posés en certains lieux pour aider, si j'ai bien compris, à prendre conscience de l'espace. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cet artiste, en commençant si possible par décrire une œuvre?
Alors, de Richard Serra est un artiste un petit peu difficile à appréhender parce que effectivement, il crée des œuvres monumentales. Celles qui sont les plus accessibles se trouvent au musée Guggenheim. Peut-être que certains de nos auditeurs ont visité le musée Guggenheim.
À New York, donc.
À Bilbao.
Bilbao.
Ah, pardon. Dont une série d'œuvres ont été conçues et installées avant la construction de la grande salle qui les abrite. Richard Serra est un artiste qui est américain, mais qui a c'est un artiste extrêmement puissant, et il a recherché des chantiers dans lesquels on pouvait couler d'immenses plaques d'acier. Et il a trouvé il a visité des chantiers dans le monde entier, et là, il a trouvé les chantiers navals de Bilbao, dans lesquels il a visité l'endroit où on fondait ces immenses plaques. Et à partir de ça, il a réussi à demander à certains chefs d'entreprise de ces chantiers, de ces fonderies géantes, puisqu'elles étaient destinées à abriter d'énormes containers, d'énormes cargos de marchandises, il a réussi à demander à ces fondeurs de plier, de courber ces plaques immenses de métal en fonction de ses besoins. Ce sont des besoins qui supposent d'ailleurs une introduction personnelle. C'est-à-dire que quand on rentre dans les œuvres de Richard Serra, il ne faut pas hésiter à passer entre des plaques de tôle qui sont parfois inclinées et qui nous donnent une impression souvent de malaise. Je comprends très bien qu'on ne soit pas prêt à se faufiler entre des plaques de métal telles que celles qu'on voit à Bilbao. Mais il y a des impressions physiquement, des impressions ressenties qui sont inoubliables.
Alors qu'est-ce que ça dit, ou est-ce qu'il y a un propos autour de ces sculptures?
Il nous dit, écoutez votre corps. Écoutez le rapport de votre corps à l'environnement. Touchez, tapez, écoutez les vibrations. Ne vous laissez pas séduire seulement par la formule que beaucoup de Français ont longtemps plébiscitée, c'est-à-dire le petit tableau qu'on met dans la salle à manger ou dans le salon, qui est la taille d'un écran de télévision. Essayez de lier l'art contemporain à une expérience personnelle. Voilà, une expérience physique.
J'ai cru comprendre aussi que le propos de cet artiste était d'aider à prendre conscience aussi de l'espace, parfois de certains lieux. Est-ce que vous pouvez expliciter ça?
Tout à fait, en marchant. Un peu comme Pierre Soulages en peinture. Serra nous demande de marcher, de circuler, de regarder, d'observer, d'entendre, de toucher, bien sûr. Et c'est une expérience physique qu'il nous propose.
Alors, autre artiste à propos de l'abstraction, peut-être plus connu que Richard Serra, Marc Rothko, ça fait probablement partie des artistes contemporains les plus connus. Ce sont des tableaux de couleurs. Si j'ai bien compris, le propos est d'aider à prendre conscience de la puissance ou de la palpitation de la couleur. Est-ce que vous pouvez commencer par nous décrire un tableau ?
Un tableau est un exemple de méditation. D'abord, j'ai fait une exception en parlant de Rothko, parce que Rothko est mort. Il ne fait plus partie des artistes contemporains, comme j'ai fait aussi une petite exception pour Bacon, Freud et Rothko, puisque...
Commencez par décrire une œuvre, s'il vous plaît. À quoi ressemble un tableau de Rothko en général ?
Il s'agit d'une œuvre qui a souvent la taille, dont la taille se présente comme celle d'un homme aux bras étendus et dont la hauteur est également la hauteur d'une personne, à peu près 1m80 ou 2m. Ce sont souvent des tailles qui sont fidèles à notre propre gabarit. Et ce sont des œuvres qui sont simplement des zones de couleurs posée sur une toile nue, une toile vierge. Il n'y a pas de dessin préalable. C'est très difficile à décrire, car...
Il y a souvent quelques dominantes de couleurs aussi.
Il y a des dominantes
de couleurs. Comme des grands rectangles ou des grands carrés.
Si vous voulez, qui pourraient être des portes d'entrée vers un autre monde. Et c'est surtout la façon de poser la couleur sur la toile qui fait vibrer cette couleur qui n'arrive pas au bord de la toile, pour nous rassurer, pas du tout. C'est rouge et c'est jaune qui parfois nous donnent l'impression que nous pouvons rentrer dans un monde ou de feu ou de paix ou de lumière ou de respiration. Mais n'oublions pas que Rothko, à la fin de sa carrière, peignait des choses de plus en plus sombres.
Iris Merlet, me vient une autre question, plus générale, avant qu'on voit encore un ou deux autres artistes. Vous avez l'air, depuis le début de l'émission, de dire que parfois il y a besoin d'un discours pour essayer de comprendre l'œuvre, parce qu'il y a justement un discours à travers cette œuvre, et puis parfois non, que c'est une expérience. Malgré tout, quand on se promène avec vous comme ça dans cette espèce de musée virtuel, on arrive plus facilement à rentrer dans ces œuvres. Est-ce à dire que, de toute façon, il faut une grande culture artistique pour arriver à rentrer dans l'art contemporain ? Et peut-être est-ce là qui laisse souvent beaucoup de monde interdit, alors que quand on se promène devant un tableau impressionniste ou un tableau de la Renaissance italienne ou flamande, on arrive à rentrer dedans, j'ai envie de dire.
Il faut beaucoup de bonne volonté, beaucoup de curiosité. Voilà. Et il faut se promener dans des expositions d'art contemporain qui ont été quand même reconnues, qui ont été validées. Et puis, il faut décider de suivre certains artistes, soit par des conférences, soit en suivant des revues, en allant systématiquement à la bibliothèque pour consulter des revues d'art, voir retenir certains artistes qui nous touchent, les noter, voir s'ils reviennent toujours en notre mémoire ou pas. Je crois qu'il faut un suivi, il faut un travail personnel.
Ça, c'est peut-être, on verra ça à la fin de l'émission, mais ma question à l'intérieur de la question, c'était, est-ce qu'il n'y a pas une forme quand même d'élitisme dans l'art contemporain
parce qu'il
faut des attendus culturels en fait importants pour arriver à rentrer dans les œuvres.
Tout à fait. Alors, il y a une forme d'élitisme importante, surtout parce que certains artistes sont très proches de tas de mouvements et de présupposés, ont eux-mêmes une culture importante qu'ils instaurent et dont ils font allusion dans leurs œuvres, c'est-à-dire la littérature, les peintres font allusion aux sculpteurs, les sculpteurs aux peintres, beaucoup le cinéma, la bande dessinée et la photo. Et tous ces présupposés ne sont pas connus de tout le monde.
Alors, si on finit cette promenade artistique, vous vouliez citer deux artistes encore avec deux portes d'entrée que sont le minuscule ou au contraire l'univers. Vous vouliez nous parler d'un certain Philippe Favier et de Camille Henrot.
Oui, Philippe Favier fait l'objet actuellement, je crois, d'une exposition à l'ODEV. C'est un artiste, c'est drôle, qui était fils unique, dont les parents tenaient une mercerie. Et donc, il a toujours été habitué à des objets minuscules et à avoir des inventaires. Et c'est un garçon qui est très silencieux, qui a toujours observé les choses minuscules en nous en montrant le goût, en nous en donnant le goût. On n'est pas dans le tapage, on n'est pas on est dans les choses pleines d'humour. Est-ce qu'on sait voir l'humour du petit ? Voilà.
Donc ça peut donner des tableaux qui ressemblent qui ressemblent en fait à des bateaux du déluge, enfin avec une multitude de petites figures qu'il faut presque regarder à la loupe et qui disent quoi? Qui disent le foisonnement de la vie ou le...
Oui, beaucoup d'humour par exemple. Une des expositions qui m'avait le plus touchée au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris, je crois, c'était des couvercles de boîtes de sardines qu'il avait découpées, dans lesquelles il avait inséré un verre qu'il avait peint en montrant justement le thème du déluge ou le thème d'île merveilleuse. Donc à travers la forme d'une boîte de sardines dont tout le monde connaît la taille, le verre éclairé par l'intérieur nous faisait rentrer dans un univers extraordinaire. Et c'était pourtant, la peinture n'occupait pas entièrement le morceau de verre. Donc on était là dans un univers de rêve qui, des îles exotiques, des palmiers, des tas de petites choses. On était obligé de s'approcher. Et dans ces toutes petites images, on pouvait projeter un univers merveilleux, un paradisiaque.
Alors au contraire, semble-t-il, c'est des œuvres qui renvoient à la taille de l'univers, si je puis dire. Donc vous citez Camille Henrot, qui a exposé récemment, enfin son exposition s'appelait Grosse Fatigue, si j'ai bien compris.
Oui.
Racontez-nous un peu son œuvre.
Alors Camille Henrot est une artiste française qui malheureusement maintenant vit aux États-Unis et qui a obtenu le Lion d'argent de la Biennale de Venise. C'est une jeune femme qui exposait à l'Arsenal, et en fait elle montrait une vidéo de 10 ou 15 minutes à l'intérieur d'une petite salle que j'avais vue, donc que j'avais découverte surchauffée au mois de juillet-août. Mais on faisait une queue énorme, donc la preuve était que c'était extraordinaire. Et elle a utilisé énormément des ordinateurs avec des images intégrées les unes aux autres, des images toujours en fenêtre les unes après les autres, pour nous montrer l'accélération de la vie dans l'univers, une main extraordinaire qui crée l'univers, une main qui à ses yeux est une main de femme, faisant rouler une orange qui pourrait symboliser la terre. Et puis à partir de ça, toutes les fenêtres qui s'ouvrent pour montrer justement l'accélération de la vie. Et puis finalement, eh bien, grosse fatigue, parce que on revient au mammifère primitif, une sorte de tortue qui revient dans la mer pour s'y plonger et nous montrer que nous sommes un peu épuisés, nous les humains. C'est la genèse.
Merci pour cette balade artistique. Restez avec nous. On va demander encore quelques conseils à Françoise Baniris-Merlet pour nous aider même si on n'a pas tous les mêmes attendus culturels que notre invité de ce matin, nous aider à faire quelques pas et à mieux connaître cet art contemporain.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
L'art contemporain a-t-il une âme ? C'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, avec autour du plateau pour nous en parler Françoise Baniris Merlet, docteur en histoire de l'art, professeur honoraire à l'École des Beaux-Arts à Toulouse et professeur à l'Institut catholique de Toulouse. Dans cette dernière partie d'émission, vous vouliez très sympathiquement, Françoise Baniris Merlet, nous aider à aller un petit peu plus loin. En tout cas, ça a été ma suggestion et vous l'avez accepté. Imaginons, voilà, je suis un auditeur classique, je ne sais pas exactement ce que ça recouvre, mais en tout cas, je connais mal l'art dit contemporain, où j'ai quelques a priori, et surtout, j'entends surtout parler d'eux à travers les médias. Je n'ai pas toujours à portée de main une multitude de musées d'art contemporain, où je n'habite même parfois pas près d'une grande ville, et encore moins, enfin, il m'est compliqué de courir l'Europe pour aller découvrir ces artistes. Alors, qu'est-ce que je peux faire ? Quels sont les premiers pas que vous conseillez ?
Suivre d'abord l'actualité de sa région, le mieux étant d'essayer de voir des œuvres, d'être en contact avec des œuvres. Et je voudrais élargir le domaine de la peinture ou de la sculpture à d'autres arts qui peuvent être la photo, le cinéma, qui contient aussi des œuvres qui nous mobilisent profondément. Je pense qu'il ne faut pas, il faut accepter maintenant que l'art contemporain nous déplace, mais n'en reste pas uniquement à la vision de petits tableaux ou de petites sculptures décoratives. C'est profondément une autre chose qui s'ouvre à la découverte, enfin à la méditation, à la découverte du visiteur, lorsque l'on a contact vraiment avec l'œuvre. Donc, peut-être se faire plaisir en travaillant, en visitant des expositions d'art amateur, mais en essayant de voir s'il n'y a pas des artistes qui ont quelque chose à dire, s'il en reste à des bouquets de fleurs ou des petits modelages de femmes nues ou d'hommes nus. Je crois qu'on ne va pas aller très loin, on va se faire plaisir, ce qui est une très bonne chose. Mais il faut essayer de voir ce qu'a voulu dire l'artiste, voilà. S'il a un axe profond dans sa vie d'artiste. Alors pour cela, il est évident que quand on voit un artiste qui nous intéresse, on peut essayer de demander. Il y a des salles d'exposition, il y a des gens qui sont capables de justifier les choix qui ont été faits pour les artistes présentés. Remonter un peu la filière.
Alors, il n'y a pas de honte à poser des questions quand on visite ces galeries, parce qu'on peut se dire parfois que si c'est pour se faire répondre sèchement, non, il n'y a pas de discours. Ce qu'il faut, c'est vivre l'œuvre et l'éprouver. Derrière, on n'ose peut-être pas recommencer.
Il y a un discours. Il y a évidemment un discours. Et celui qui pourrait, ou ceux qui pourraient en parler, ce sont bien les... Par exemple, ici à Toulouse, ce seraient bien les guides conférenciers. Mais il y a des guides conférenciers, surtout l'été, dans de nombreux lieux où l'on visite des œuvres d'art contemporain. Ce mois de février ou de janvier n'est peut-être pas un excellent mois pour les expositions d'œuvres d'art dans la région. Mais l'été, notre région se couvre d'expositions qui sont destinées évidemment davantage à animer la région à l'époque touristique. Et là, je crois qu'il ne faut pas, il ne faut surtout pas... résister au plaisir d'aller les découvrir nous-mêmes.
Faut-il surtout aller dans les très grandes villes pour trouver des galeries d'art contemporain, comme on dit dans notre région par exemple ? Est-ce qu'il faut impérativement aller à Toulouse ou Montpellier ?
Non, on peut avoir du côté de Sigean un lieu magnifique Piet Mogêt, par exemple, a créé un espace dans lequel il expose ses propres œuvres et sa fille a continué à exposer des œuvres d'artistes contemporains et elle est tout à fait capable, avec d'autres l'été, de présenter ses œuvres. Donc, nous sommes en pleine campagne. Nous sommes du côté de Sigean, mais loin de toute ville, dans un lieu magnifique, proche de ce qui animait vraiment l'artiste lui-même, c'est-à-dire la vision de ses marais, de ses marécages avec ses roseaux. Vous voyez, on n'est pas obligé, non. À Cahors, vous avez également, vous avez des lieux dans certains monastères, certaines abbayes. Je pense en Bretagne, En Bretagne, une association extrêmement vivante a créé a créé une série d'expositions qui s'appelle L'art dans les chapelles. Des petites chapelles toujours fermées s'ouvrent l'été pour des expositions diverses et variées, montrant dans des chapelles jamais accessibles. Elles s'ouvrent, elles sont souvent vides, mais justement parce qu'elles sont vides, elles forment l'écrin à des artistes contemporains. Ça arrive de plus en plus que l'été, des chapelles souvent fermées et oubliées s'ouvrent, et nous sommes en pleine campagne.
Pour faire écho peut-être à la première partie et finir cette émission, au début de l'émission, donc vous avez essayé de nous définir ce qu'il fallait mettre derrière le mot art contemporain et puis derrière le mot âme. Y a-t-il, comme vous nous avez donné quelques critères pour dire ce qui est de l'art contemporain ou pas, quelques habitudes de décryptage à avoir en tête quand on est face à un artiste? Donc on peut prendre un conseil, essayer de lire, s'intéresser, mais est-ce qu'il y a, je sais pas, 2-3 éléments clés qu'il faut avoir en tête, Françoise Manieris-Merlay?
Ne pas avoir d'a priori, de préjugés.
Ou en tout cas, essayer d'aller au-delà.
Il faut essayer d'aller au-delà. Et si on ne comprend pas, si on est touché quand même par une œuvre, mais si l'on ne comprend pas, il faut essayer de trouver quelqu'un qui accepte de nous répondre sans mépris, sans essayer d'éluder la question. Alors, si on ne trouve pas, on va chercher. On a maintenant sur Internet tous les éléments, ou beaucoup d'éléments, pour essayer de trouver qui est l'artiste, qu'il a voulu dire, et s'il a exposé ailleurs. Et si on ne trouve pas ce qu'il a voulu dire à l'endroit, dans le cadre de l'exposition que nous allons voir, eh bien, on peut peut-être le trouver dans une autre exposition dont le catalogue existe. Moi, je fréquente beaucoup les librairies, je fréquente beaucoup les médiathèques. Tout le monde a, dans son village, une médiathèque avec des revues d'art que l'on peut feuilleter. Et on peut trouver dans la table des matières les noms des artistes que l'on a parfois repérés, que l'on retrouve comme ça ponctuellement. Il faut rechercher les petits cailloux, comme le petit poussé, sur un chemin et les suivre. Si cet artiste nous a séduits à un moment, peut-être il ne nous séduira plus, mais quelquefois nous le retrouvons à différentes étapes de sa vie, en fonction des revues, des articles, et il nous touche toujours. Donc ça vaut la peine de le suivre.
Françoise Manieris-Merlay, j'aurais peut-être une dernière question, alors pardon de sa grossièreté. Est-ce qu'il ne faut pas aussi apprendre à ne pas d'abord se demander si on trouve ça beau ou pas lorsque l'on est face à une œuvre contemporaine? Est-ce que ce n'est pas une autre question en fait, qu'il faut se poser?
Il est évident que si une œuvre ne nous touche pas et si elle nous rebute, nous n'aurons pas tendance à essayer de savoir pourquoi elle a été réalisée.
On peut être touché et ne pas trouver ça beau.
Oui, absolument, absolument. Et il y a des œuvres qui nous questionnent. Voilà. Maintenant, la beauté, si elle nous questionne, la beauté peut ne pas être le seul critère. Vous parliez de Francis Bacon tout à l'heure. C'est un artiste dont les portraits sont toujours reconnus comme extrêmement importants, comme fédérateurs, comme références. On ne peut pas dire que les portraits de Francis Bacon, qui nous montrent souvent des sortes de crânes vus comme avec les premières radiographies des années 50.
Les visages déformés.
Des bouches hurlantes. On ne peut pas dire que le critère soit le critère de beauté. Et malgré tout, eh bien, elle nous interroge, elle nous passionne.
Eh ben, merci beaucoup, Françoise Manieris-Merlay, d'être venue ce matin au micro de cette émission et de nous avoir permis cette balade dans l'art contemporain. Différentes choses à dire à la fin de cette émission. Si vous avez été passionné donc par les propos de Françoise Manieris-Merlay, ben tout simplement vous pouvez, là où vous êtes, moyennant finance malgré tout, proposer un cycle de conférences ou en tout cas rentrer en contact avec elle, peut-être via l'Institut catholique de Toulouse, pour lui demander, dans le diocèse où vous êtes ou la région où vous êtes, quel que soit le lieu d'attache d'église ou pas, de venir donner ce cycle de conférences. L'art contemporain a-t-il une âme, cycle de six conférences. Et en ce moment, à l'Institut catholique de Toulouse, a commencé il y a peu un cycle de cours d'histoire de l'art sur le thème de l'architecture contemporaine. Toutes les informations sont à retrouver sur le site internet de l'Institut catholique de Toulouse, www.ict-toulouse.fr, si je ne me trompe pas. Merci beaucoup, Françoise Bagnéris-Merlet. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.